Et si on en parlait? À l'antenne, Francine Broca.
Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? J'ai fait l'amour, j'ai fait la manche, j'attendais d'être heureux. J'ai fait des chansons, j'ai fait des enfants, j'ai fait au mieux. J'ai fait la gueule, j'ai fait semblant, on fait comme on peut. J'ai fait le con, c'est vrai, j'ai fait la fête, ouais. Je croyais être heureux, mais y'a tous ces soirs sans pote. Quand personne sonne et ne vient, c'est dimanche soir dans la flotte.
Comme un con dans... Bonjour à tous et à toutes, ici Francine Broca, heureuse de vous retrouver sur Troc Radio pour une autre édition de Coach de vie. Aujourd'hui, peut-on vivre heureux avec des croyances limitantes? Le syndrome de la fée Carabosse, nous en discutons avec Marie-Pierre Méduga, que je rejoins immédiatement en France, tout spécialement à Reims. Bonjour Marie-Pierre, bonsoir Marie-Pierre.
Bonsoir Francine, comment allez-vous?
Ça va, ça va. On avance doucement dans le temps, on se prépare pour peut-être la fin d'année, de la vivre avec toutes les contradictions qui sont autour, mais on garde le cap. De toute façon, on ne saurait rien y changer, n'est-ce pas? Alors, il vaut mieux prendre les choses du bon côté et de c'est dire ça. Qu'on avance. Alors, d'y croire.
L'acceptation, c'est la première clé pour le bonheur.
C'est vrai, hein, vous dites toujours ça.
Oui, ben oui, parce que du coup, voilà, il y a des choses contre lesquelles... En fait, ce n'est pas l'acceptation bête et méchante. Hein. L'idée, c'est qu'il y a une petite prière qui dit que « Aide-moi à changer les choses que je peux changer, à accepter les choses que je ne peux pas changer et à savoir faire la différence entre les deux. »
Oui, c'est vrai.
C'est vrai qu'il y a beaucoup de sérénité quand on sait que ce n'est pas la peine. On ne va pas pouvoir changer cet état de fait-là. Donc, pourquoi lutter? En revanche, gardons notre énergie pour pouvoir changer ce que l'on peut changer.
Ouais. Inutile de se rabattre sur quelque chose qu'on n'y peut rien. On
ne peut pas changer. Ouais. Et là où il faut préparer, il faut recevoir, accepter.
Mmh. Avancer.
Ça veut dire simplement accepter. Ça ne veut pas dire être d'accord avec. Ça veut dire accepter. Et souvent dans notre société, on a oublié que l'acceptation ne vaut pas l'accord avec cette chose qui nous fait mal. Elle veut simplement dire « Ok, je reconnais qu'elle est là et que je ne peux rien contre elle. » Ce n'est pas la même chose, hein?
Mmh. Ah, ça veut dire qu'on pourrait dire qu'accepter, c'est comme assumer aussi, ou pas tout à fait?
Pas tout à fait non plus. C'est un petit peu plus nuancé. Quand vous assumez, vous prenez la chose à bras le corps et vous la faites vôtre. En disant, ok, c'est moi qui l'ai fait, j'en suis un peu responsable.
Responsable, d'accord.
Alors que quand vous acceptez, vous pouvez accepter le deuil, par exemple, d'un conjoint, d'un ami, de quelque chose ou d'une relation ou d'une situation. Mm-hmm. Vous dites, ok, il y a une mort, il y a une rupture. Je ne suis pas d'accord avec, je ne suis pas, mais elle est. Je ne peux pas refuser l'existence même de cette rupture ou de cette cassure ou de ce deuil. Je reconnais qu'il y a un deuil, je reconnais qu'il y a une rupture. C'est juste ça l'acceptation.
D'accord.
On ne vous demande pas de dire pourquoi, qu'est-ce que je peux faire contre, qu'est-ce que je peux faire pour. Non, juste accepter que ce soit passé. Très souvent, même ce niveau d'acceptation, on ne l'a pas. Et ça nous pose beaucoup de problèmes dans la vie quotidienne. Et idem pour nos croyances limitantes. Hein.
Ouais. Alors, si on partait du début, qu'est-ce qu'une croyance?
Alors, qu'est-ce qu'une croyance limitante? On a notre société, notre mode, l'être humain, c'est pas notre société actuelle. L'être humain est un être de croyance.
Ouais.
Il ne croit pas simplement en Dieu, hein. Il croit en ce qu'il voit ou à peu près. Aujourd'hui, on s'aperçoit avec les neurosciences que ce qu'il voit n'est pas toujours la réalité. Pourtant, il le croit. Il croit en ce qu'il dit, de préférence. Donc, l'être humain...
Est-ce qu'il croit ou il se convainc?
Non, il croit.
Il croit, d'accord.
C'est la croyance. Et l'idée, c'est qu'en fait, la croyance, c'est ce qui fait votre socle de pensée. Vous pensez et donc vous croyez. En fait, Pascal a dit « je pense, donc je suis », et on aurait dû dire « je crois, donc je suis
». Alors, si je pense que je suis nul, je pense que je suis nul. Je deviens nul.
Exactement. Et donc, en fait, la plupart du temps, on a des croyances bienfaisantes. Hein. Je crois que les parents m'aiment. Il vaut mieux croire que les parents nous aiment pour grandir. Hein. Si vous avez la certitude que vos parents ne vous aiment pas, vous allez grandir de guingois. Hein. Vous allez mal grandir. En tout cas, vous allez mal poser le socle.
Même si nos parents nous aiment, on est convaincu, on croit fermement que ceux-ci ne nous aiment pas pour mille et une raisons. Ça va devenir réalité pour nous. On va le croire vraiment.
Ça peut devenir une réalité, mais vous allez trop vite. Oui, mais ça peut devenir une réalité. Mais une croyance, c'est déjà chasser un socle de pensée qui nous structure.
D'accord.
Je crois que j'ai des parents qui m'aiment. Je crois que j'habite dans cette maison. Je crois que j'habite... Une vie. Tout repose sur une croyance. On croit en soi, puis on croit. Et on croit les autres. On vous explique. D'ailleurs, les accords Toltec ont très bien dit ça. Vous croyez ce qu'on vous dit. Donc, on vous dit, vous êtes sur la terre avec le monde tel qu'il est, etc. Vous le croyez. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on voit que les complotistes commencent à se mettre à décroire un certain nombre de choses qui pourtant sont logiques. Mmh. Ils voient la terre et eux, ils sont persuadés que la terre est plate. Il y a des platistes, hein.
Oh, mais là, je reviens sur cette histoire parce que c'est bon, sur le modèle que vous donnez sur les parents. On croit. Mais si les parents nous aiment, qu'est-ce qui nous fait croire qu'ils ne nous aiment pas? C'est ça que je voudrais comprendre.
Ah, mais non, alors, ça, ce n'est pas une croyance. Et c'est très rare. Enfin, il est très rare de penser que les parents ne nous aiment pas. Quand on commence à le penser, c'est ou on l'a entendu ou que le comportement des parents
sont réels. Oui, d'accord. OK.
Qu'ils ne nous aimaient pas. Mmh. Alors, deux solutions. Soit effectivement parce qu'ils ne nous aimaient pas, ou en tout cas, ils nous aimaient mal. Mmh. Parce qu'ils vous battaient, parce qu'ils vous traitaient mal, parce qu'ils vous disaient que vous ne réussirez jamais à rien, parce qu'ils reproduisaient eux-mêmes ce qu'on leur avait répété pendant des années, c'est-à-dire qu'eux-mêmes n'étaient bons à rien.
Mais cette croyance est véridique, elle est réelle, elle a une réalité. Moi, je croyais que quelquefois, une croyance, c'était croire en quelque chose qui n'était peut-être pas possible, mais qu'on se mettait en tête et qu'on le voit.
On peut se mettre en tête quelque chose, mais généralement, et c'est pour ça que je vais vous parler du syndrome de la fée Carabosse.
D'accord.
On se met très souvent quelque chose en tête parce qu'on l'a entendu plus qu'imaginé. On a entendu quelque chose ou à un moment où on était en creux, un peu fatigué, un peu pas bien, on a douté de soi et on s'est agrippé, comme on s'agrippe à une branche quand on se noie, on s'est agrippé à une phrase mais qui n'était peut-être pas la bonne. On est dans un moment de creux, on a un professeur qui arrive et qui nous dit « tu n'arriveras jamais à rien dans la vie ».
À force de se le faire dire, on commence à le croire, quoi.
Non,
non, même pas.
Ça peut être simplement une personne que vous estimez beaucoup et qui vous le dit. Et comme vous l'estimez beaucoup, vous la croyez ?
Mmh, d'accord.
Vous avez des parents qui sont persuadés, eux-mêmes, c'est leur propre croyance, qu'il ne faut pas réconforter les enfants, qu'il ne faut pas les féliciter, il faut les faire marcher à la dure. C'est leur croyance. Du coup, votre croyance à vous, c'est que, bah, puisque vous n'arrivez pas à satisfaire l'idéal de vos parents, c'est que vous êtes nul.
Mmh, vous êtes une bonne en rien, c'est ça. Mmh.
C'est leur croyance et qu'il faut vous élever à la dure, la vôtre, et que comme vous n'arrivez jamais à être aussi fort qu'ils le voudraient, c'est que vous êtes nul. Voilà deux croyances qui se rencontrent.
Alors la croyance de l'un peut devenir la croyance de l'autre, si je comprends bien.
D'une certaine manière, vous la faites vôtre.
C'est pas évident là.
Oui. Il y a des personnes qui s'imaginent, par exemple, qu'elles ne seront jamais heureuses en amour. Simplement, sans parler, vous savez qu'une bonne partie de notre communication avec nos proches est une communication non verbale.
Ouais.
Vous avez vu votre mère, vous avez vu votre père, vous avez vu les premières relations d'amour que vous avez, généralement. Or, vous les voyez malheureux en amour, ça arrive fréquemment. Il y a des parents qui divorcent et des parents qui ne divorcent pas. Et vous les voyez très malheureux en amour, ils font semblant, mais comme la communication non-verbale est tout à fait perceptible à n'importe quel enfant, Françoise Dolto disait « l'enfant, c'est tout ». Eh bien, vous avez remarqué que vos parents vous disent qu'ils aiment, vous disent qu'ils vous aiment, et pourtant, vous les voyez ne pas se parler mal, voire oser à peine se toucher. Bref, vous sentez qu'il y a un double discours ou un double langage ou une certaine souffrance. Vous la percevez sans pouvoir y mettre des mots. Eh bien, il est fort possible que cette situation dans laquelle vous êtes plongé pendant des années vous fera penser que, à l'instar de vos parents, comme vos parents, vous ne pourrez jamais être heureux en amour. C'est simplement une croyance qui émane de ce que vous avez vu,
De ce qu'on a vécu, ce qu'on voit devant soi. Il peut y
de ce
avoir
que vous
aussi.
avez, voilà, de l'exemple que vous ont montré les parents, sans parler des mamans ou des papas, plus fréquemment les mamans, hein, quand elles étaient abandonnées. Un peu moins maintenant, sans doute, parce qu'elles sont plus indépendantes, mais qui disaient, tu verras, ma fille, les hommes, ça vous abandonne, les hommes, ça vous laisse, on ne peut pas être heureux, les hommes sont tous des menteurs. Voilà une croyance que vous pouvez prendre comme vôtre, parce que vous avez entendu quelqu'un. Okay.
Alors, il y a des croyances bon, une croyance est une certitude. Il peut y avoir aussi une croyance qui est une certitude sans preuve, je pense, comme à la religion, par exemple.
Attention, ça c'est un sujet que j'aborde rarement
Ah, d'accord, non, c'est
à
parce
la
que
radio.
ça devenait dans les questions qu'on parlait de ça, que les gens avaient une croyance là-dessus. Ok, on
Oui,
aborde, ouais.
mais je ne parlais pas de la foi.
Non, d'accord.
Je ne parlais pas de la foi. Il n'y a pas besoin de preuves, il y a la foi.
Ok, c'est autre chose complètement. Ok.
Pour moi, c'est quelque chose de différent, ce qui n'empêche. On parlait de croyances limitantes. Alors, il y a des croyances, il y a. Je n'ose croire que la foi soit limitante pour ma part. Vous voyez, j'ai moi-même une croyance qui pense que la foi doit ouvrir et non pas enfermer. C'est déjà
Voilà,
une croyance en
d'accord.
soi.
Ok.
C'est déjà une croyance en soi.
Ouais.
Mais effectivement, il y a des personnes qui pensent que on n'a pas besoin de croire pour, de voir pour croire. Et en fait, qu'est-ce qui fait que l'on croit? C'est la confiance en cette croyance.
Alors, si je comprends bien, c'est que nos pensées et nos croyances ont autant le pouvoir de nous construire comme de nous détruire, quelque part.
Exactement. L'homme est un, l'être humain est un être de croyance et de cette croyance, il en fait une réalisation. On dit souvent, et la parole, on dit, et la lumière fut, mais en fait, on devrait dire, et la parole soit. Et c'est la parole. Puisqu'il est doué de parole, c'est la parole qui lui fait construire le monde qu'il veut. Je parle de l'être humain, c'est pour ça que je parle de l'être humain. Et donc, ces croyances, elles peuvent nous faire roi ou reine,
Ou
ou nous
esclave.
faire minuscules et pauvres ou esclaves, exactement. Si vous êtes convaincu, il y a eu des révolutions, Dieu soit loué. Parce qu'il y a des personnes qui ont justement enlevé ces croyances qui disaient, vous êtes des serfs, vous ne resterez que des serfs ou des esclaves, jamais vous n'aurez droit à pouvoir voter. S'il n'y a pas quelqu'un qui a dit, mais non, mais interrogeons là, cette espèce d'histoire, qu'est-ce que c'est que cette histoire qu'on ne peut pas être comme d'autres êtres humains, on n'aurait jamais fait la révolution en France.
Tout à fait, ouais.
Parce qu'on aurait continué à croire qu'effectivement notre destin était de ne pas justement pouvoir prendre notre destin en main. Et alors, ces croyances s'installent dans nos têtes et plus les croyances sont fortes et plus les moyens culturels pour les ancrer dans nos têtes sont forts
Tout
et
ça sont
plus.
difficiles à enlever quand elles ne sont pas bonnes.
Or, les classes, entre guillemets, dominantes, si on peut dire ça comme ça, peuvent faire en sorte que ces croyances ne changent pas. Il y a personne n'a intérêt. À une époque, la monarchie n'avait absolument pas intérêt à ce que vous puissiez penser que vous étiez un citoyen comme un autre, a priori. Ou quand vous étiez esclave, que vous avez le droit d'être un être vivant avec tous ses droits. D'ailleurs, il y a encore des gens qui pensent que les esclaves, c'est des esclaves et on le
Ils
voit
vont
bien.
être esclaves tout le restant de leur jour. Ils le croient fermement.
Tout à fait. Et ce qui explique, en fait, cette notion, c'est quand tous les moyens et quand il y a de gros moyens mis en œuvre pour vous faire penser que cette croyance qui vous limite, elle est crédible, elle est légitime et vous ne pouvez pas lutter contre.
Ouais, c'est ça. Comment savoir si à un moment donné notre croyance, c'est par notre propre expérience qu'on voit que cette croyance, elle est bénéfique ou qu'elle est
Alors,
limitante. Voilà.
vous repérez que cette croyance est limitée quand elle vous freine,
Vrim, ouais.
quand elle sabote votre vie. quand elle vous empêche d'être heureux, quand elle entraîne chez vous une forme de dépréciation de soi-même, hein, quand elle... Donc, j'ai parlé, le sabotage, la dépréciation de soi, quand elle entraîne de la dépression, quand elle entraîne une mauvaise estime de vous-même, vous vous regardez et si toute la journée vous dites « c'est vrai, ils ont raison, je suis nulle, je suis moche, je ne vaux pas la peine, je n'aurai jamais cette augmentation, je ne serai jamais heureux en amour », c'est une croyance limitante.
C'est qu'on alimente, on l'alimente aussi.
Ça fait. Ouais. Il y a des croyances encore plus pernicieuses. Parce qu'il y a des croyances qui, en fait, font en sorte de vous laisser dans votre système de... dans votre zone de confort. Je vous prie de m'excuser parce que j'entends un petit bruit qui me dérange.
Oui, j'entends comme s'il y avait quelque chose qui rentrait, moi aussi.
C'est un bruit de téléphone. Je ne comprends pas pourquoi mon téléphone sonne à ce moment-là.
Alors voilà, c'est arrêté. Je le sentais, mais je ne savais pas c'était quoi. Je n'osais pas vous interrompre. Ça va, c'est parti maintenant, voilà.
C'est une sonnerie de téléphone.
Bon.
Alors, ce qui est important, c'est quand vous vous rendez compte que cette croyance limitante que vous avez, donc, elle vous limite. Hein. Vous voyez bien qu'elle vous limite, qu'elle vous rend malheureux. Elle est là.
C'est une barrière.
Voilà, c'est une barrière. Et puis, vous en avez d'autres qui sont beaucoup plus pernicieuses, qui sont des croyances qui vous disent, non pas que vous êtes nulle ou pas intéressante ou pas intelligente, mais ne va pas trop loin, c'est dangereux pour toi. Ne va pas là. Ce sont des croyances qui vont vous maintenir...
Sournoises un peu, des croyances plus
voilà,
sournoises.
Dans votre zone de confort. Mmh. Elles vont vous éviter, ce sont ce type de croyances-là qui sont des freins au changement, par exemple. Ce sont des types de croyances qui vous maintiennent dans votre petite vie où vous ne prenez pas de risque, puisque de toute manière, au-delà d'un certain seuil, c'est dangereux pour vous. Et ces croyances vous disent « ne bouge pas ». Elles ont un rôle à jouer parce que souvent, ces croyances-là sont le signe de la peur de l'échec.
Mmh.
Et elles se rapprochent du syndrome de l'imposteur. On en a parlé de ce syndrome, hein. Vous vous dites, ah non, si je fais ça, tout le monde va me regarder, je ne suis...
Toujours non. Encore une fois, le regard des autres sur nous qui nous empêche ou qui nous fait réaliser ce qu'on ne veut pas voir, un miroir finalement, qui n'est pas toujours
voilà.
Là.
Ouais. Alors, dans la vie, ces croyances limitantes, on peut quand même les repérer. C'est ça qui est important. On peut les repérer...
Et comment on les repère?
Comment on les repère d'abord? Parce que quand on prend un tout petit peu de recul avec ce petit tourbillon qu'on entend dans notre tête sans cesse, et parfois on entend nos pensées, en fait.
Cette petite voix à l'intérieur.
Rumine. Et parfois c'est un ruminement incessant. Et parfois, vous vous mettez juste à côté, alors ça sert, hein, la méditation, vous mettez à côté, non pas pour ne pas les entendre, mais justement pour les entendre, vous vous mettez à côté et sans juger, vous écoutez ce que vous êtes en train de vous dire. Ça, c'est un exercice qui est intéressant. Je m'écoute sans me juger. Et là, vous écoutez ce que vous dites de vous-même. Et souvent, c'est le meilleur moyen de prendre conscience de certaines pensées limitantes que l'on a.
Il faut le faire. Il faut faire cet exercice.
Tout à fait. Alors... comment peut-on faire? Alors, on a deux cas de figure et j'aimerais bien, si vous le voulez, qu'on examine nos deux cas de figure. On va voir selon que l'on se trouve au travail, dans notre vie professionnelle, et selon que nous nous situons dans notre vie personnelle, quand je veux dire dans notre vie quotidienne, sans le travail. D'accord. Parce que vous savez qu'on est, un personnage, c'est-à-dire on a plusieurs masques. On a un masque au travail, on n'est pas là forcément, la personne que l'on est au travail n'est pas forcément celle que l'on est à la maison. Les personnes qui se sentent les mieux sont les personnes qui arrivent à être la même personne partout, sur les réseaux sociaux, au travail ou chez elles.
On dit « je suis égale à moi-même, je suis comme ça un peu partout ».
Elles ont cette harmonisation, avec quand même un jardin secret. Hein.
On en a tous, hein. On ne faut pas se leurrer là. Ouais.
Voilà.
Ouais. Et c'est bien d'en avoir aussi. On n'est pas obligé de divulguer tout à fait, oui.
Ben, ça n'intéresse pas les autres. Il y a des choses qui vous intéressent, vous, vos proches, et qui sont... Mais c'est intéressant de ces personnes qui arrivent à tout fusionner quand même et être assez peu différent d'un monde à un autre. Puis il y a des personnes qui sont complètement différentes. Et vous vous rendez compte que sur le plan professionnel, il y a quelques croyances limitantes qui vous empêchent vraiment d'être heureux. La première, c'est...
Là, on va où ? On va au travail ? On fait quoi ?
Oui, au travail.
Au travail. Allons, allons-y.
La première, c'est la croyance que la réussite va vous permettre d'être heureux. Vous vous rappelez que notre question, c'était « Peut-on être heureux avec des croyances limitantes ?» Et que toute la réussite va vous rendre heureux. Si vous êtes malheureux intrinsèquement, parce que vous n'avez pas soigné quelques problèmes que vous avez de vie par rapport à vous-même, de confiance en vous, d'estime de vous, la réussite, ça va être comme une dose de drogue que l'on prend de temps en temps. Vous voyez ? Donc, vous prenez une dose de drogue, sur le coup, vous êtes bien. Et puis, très vite, le besoin...
Il y a la descente.
Il y a la descente. Et surtout, l'euphorie s'estompe. Le bien-être s'estompe.
Et on revient à la case A.
Un petit peu, voire même un petit peu plus bas parfois. Et il faut recommencer plus fort pour réussir à peine
à dépasser ça.
Et à dépasser l'état de bien-être dans lequel vous étiez. Et c'est toujours plus court et c'est toujours plus éphémère. Et c'est toujours plus difficile. C'est comme ça qu'on commence à créer des addictions, vous le savez. Ouais. Et c'est dangereux. Donc, quand vous croyez ça, ça veut dire que vous ne savez pas vivre l'instant présent. Parce que vous êtes toujours « Je serai heureux quand ?» Et j'ai envie de vous répondre quand les poules auront des dents. Parce que finalement, à force de remettre le bonheur à plus tard...
Il passe et vous ne voyez pas passer. Voilà.
Exactement. Il est où le bonheur, hein, comme la chanson que vous passez. Croire dans le travail que si on se met la tête dans le sable, si on fait comme une autruche, ben on va pouvoir quand même vivre le changement. Ben, ça n'est pas possible. Dans le travail, on est confronté un peu plus que dans la vie, ou autant que dans la vie, aux autres formes de changement. Fermer les yeux en disant « je ne veux pas changer, mais ça va se faire sans moi » ou « ça va se faire tout seul », ce n'est pas possible. Il faut accepter cette zone d'inconfort. Il faut vivre avec cette petite zone d'inconfort. Et il faut se rappeler que la Terre tourne. La Terre est en perpétuel changement.
De ne pas s'empêcher non plus de s'épanouir quelque part. De se mettre des barrières comme ça, tout à fait, en étant négatif, toujours.
Tout à fait. Ensuite, une autre croyance, alors là, qui peut aussi, qui existe aussi dans la vie personnelle, c'est de penser qu'on peut tout endurer. Ça n'existe pas. Les surhommes, les surfemmes, ça n'existe pas. C'est dans les comics, et encore, hein ? Donc, ça n'existe pas. Et donc, en fait, on ne peut pas tout endurer. Et il faut vraiment prendre le temps de se reposer sur les autres.
Et c'est de tout prendre en charge, d'accepter tout des autres. Et finalement, ça nous empêche d'avancer encore une fois parce qu'on accepte tout de tout le monde. Et on ne progresse pas pendant ce temps-là, c'est ça ?
Exactement. On ne progresse pas. Et surtout, on ne demande pas de l'aide aux autres pour qu'ils viennent. Soit on prend tout et qu'on ne demande pas de l'aide. On peut... soit trop aidé
ou pas assez
ou ne jamais demander de l'aide. L'un comme l'autre sont deux attitudes qui vont vous mener, c'est une croyance limitante, l'un que vous pouvez tout faire, l'autre que vous n'avez besoin de personne, mais dans les deux cas ce sont deux croyances limitantes.
Et puis on ne peut pas, il y a tant d'heures dans une journée, il faut aussi savoir comprendre ça, et si on essaie de tout faire, ben on va se rendre malade et puis on ne va pas réussir de toute façon.
Tout à fait. Une autre croyance, alors là, vous le savez, parce que je vous le dis souvent, c'est de penser que les émotions sont un aveu de faiblesse et qu'on peut gérer ses émotions. Je déteste ce mot, vous le savez. On gère ses émotions comme on gère je ne sais quoi. Enfin, les gens veulent contrôler et gérer les émotions parce que paraît.
Mais pourquoi on dit ça ? Pour montrer qu'on est moins fragile, on est plus fort ?
Je ne sais pas, mon développement personnel, c'est une question. Dans les entreprises, on nous demande toujours d'aider les gens à gérer leurs émotions.
Alors, on veut dire quoi par là ? C'est-à-dire que si
souvent
vous avez...
Souvent, raison, mais parce que si les gens cessaient d'engager des psychopathes et des pervers narcissiques, ça irait mieux. C'est sans doute ça. Alors, aidez-nous à le gérer. Mais non, on va pas.
Gérer quoi? Vous arrivez le matin.
Il faut une psychothérapie à ce garçon. Mais voilà, on peut pas aider des médicaments pour certains. Mais c'est vrai. En fait, les gens, parce qu'il y a des personnes qui sont imbuvables au boulot, ça c'est clair.
Qui sont insupportables, oui.
Et que les gens pensent que c'est la colère qui les rend comme ça. Alors parfois, oui, c'est vrai, et on peut leur aider à. Quand on est coach, on ne peut pas aider à grand-chose. On peut leur demander de faire autrement. Mais un coach, ce n'est pas un psychothérapeute. Donc, un coach va dire à la personne, votre manière de vous exprimer fait naître du conflit chez tout le monde. Essayez la communication non-violente. Voilà, travaillant en communication non-violente.
C'est assez clair, Marie-Pierre, c'est assez clair, dit comme ça.
Mais en revanche, on ne va pas travailler sur la source de la colère qui est souvent... Alors, c'est très souvent la justice, hein, la source de la colère, mais elle a souvent peu de choses à voir avec le travail. Elle peut, parce que le travail est une grande source de stress.
Mais il est normal d'avoir des émotions, il est normal d'en avoir. Pourquoi on doit...
Évidemment, c'est un feu de signalisation, les émotions. Si vous n'en aviez pas, vous êtes asocial. Vous n'avez pas d'émotion et vous avez peu d'empathie. Vous vous appelez, je ne sais pas quel tueur en série, mais en tout cas, ce n'est pas bon. Pour les autres surtout, hein. Pour vous, encore vous ne vous en rendez pas compte, mais pour les autres, personne sans émotion n'a pas de règles, ne sait pas où sont les gens, ne sait pas qu'elle peut faire du mal aux gens.
Ouais. Mais c'est encore c'est des croyances qui sont ancrées dans certaines personnes qui disent qu'il ne faut jamais montrer ses émotions, qu'il faut garder ça à l'intérieur de soi. Et voilà, c'est une autre croyance limitante, comme vous dites. Voilà.
Tout à fait. Et c'est une société aussi qui a été très longtemps patriarcale. Et dans cette société patriarcale, les hommes devaient être, vous rappelez, forts, ne pas montrer leurs émotions.
Et les femmes fermaient leur gueule. C'est à peu près ça, Marie-Pierre.
Aujourd'hui, ça change.
Et heureusement, heureusement que ça change.
Heureusement. Ouais. Voilà. Et bon. Heureusement pour les hommes aussi, parce que
pour les deux.
Je le disais encore ce matin, on parlait de développement durable ce matin et on parlait d'égalité des sexes. Et je disais, qui est un objectif des Nations Unies, et je disais, une société qui ne marche que sur un pied ne peut pas fonctionner. Il faut qu'on marche autant avec les hommes et les femmes, et de préférence à égalité.
À être partenaire, à égalité.
Pour que la société fonctionne. Ouais. Et donc, heureusement, puisqu'on disait que les femmes étaient émotives et les hommes l'étaient moins, eh bien, alors que c'est absolument faux, il y a des hommes très émotifs, sauf qu'ils le cachent beaucoup, et ces hommes très émotifs...
Ce qu'on a dit à un moment donné, c'était des hommes roses, vous souvenez-vous.
Tout à fait. Mm-hmm. Et les hommes très émotifs qui le cachent beaucoup, ça peut donner des gens violents.
Voilà.
Parce qu'ils sont obligés de réprimer en permanence
leur émotion.
Alors, dans le travail, quelle est la croyance limitante? C'est l'idée que le changement, ça arrive vite, et que plus c'est rapide, mieux c'est. Alors là...
Il faut prendre le train quand il passe.
Et que c'est un gage de succès. Ça, c'est une croyance limitante qu'ont tous les managers qui se disent « Oh, on va leur expliquer, en un mois, c'est réglé. » Ils auront appris le logiciel, ils seront là. Alors ça, vous le voyez, ça, c'est les managers qui n'ont pas envie de prendre de temps et qui ont oublié que pour faire changer véritablement un comportement ou une attitude dans une équipe...
Il faut prendre le temps. Voilà.
18 mois au minimum. Vous imaginez ? Il faut 18 mois pour qu'un pli soit pris et soit bien pris.
Mais leurs croyances viennent d'où, comme ça ? Parce qu'ils ont lu, ils ont entendu dire, et puis ils essaient de mettre ça en pratique. Non,
c'est une croyance qui est souvent... c'est pas une croyance, en fait. Alors là, pour le coup, c'est pas une croyance, c'est un diktat. On leur dit, on n'a pas 1 000 ans, ça coûte de l'argent.
Allez hop, on avance dans le temps et ça presse.
On a 3 mois, voilà. En 3 mois, il faut que ce soit fait. Les gens savent bien qu'il faut 18 mois, mais on leur demande de le faire en 3 mois. Résultat, souffrance au travail, stress, vous voyez un tas de choses qui sont très...
Alors on a plus reculé qu'on a avancé finalement.
Voilà.
Bon, ça, c'est les limites. Et quelles sont les croyances les plus limitantes dans un travail ?
Dans le travail, croire que le jugement des autres est meilleur que le vôtre.
Ah.
Ça, c'est une croyance qu'on a souvent dans le travail. Ça nous arrive souvent. Hein, vous rencontrez plus des personnes qui pensent que le jugement de l'autre est mieux que le sien, que le contraire. Heureusement, parfois, c'est plus facile à vivre. Mais en fait, les gens sont relativement modestes, trop parfois. Mmh. Et ça, c'est une croyance qui vous empêche vraiment d'avancer dans le travail, pour le coup. Parce que du coup, vous vous empêchez de faire beaucoup de choses.
Bah surtout, puis il y a beaucoup de gens aussi, on sait, dans le milieu du travail, qui veulent avancer plus que d'autres. Et ils vont se faire un plaisir de vous démolir, en quelque sorte.
Tout à fait. Et enfin, dernière croyance, mais ça, vous la retrouvez aussi dans la vie personnelle, c'est croire que tous les malheurs, ça n'arrive qu'à vous.
Mais on le pense souvent, ça. Aussi, oui.
Voilà,
oui.
Mais ça arrive dans la vie en disant, mais j'ai un chat noir, hein? J'ai un chat noir.
J'ai un karma qui ne veut pas me lâcher.
J'ai un chat noir, c'est la loi de Murphy. À chaque fois, tous les ennuis, c'est pour moi. Et en plus, ils arrivent en cavale. Bon, voilà. Ouais. Donc ça, c'est vraiment sur le plan professionnel. Hein, et je n'arriverai jamais à obtenir cette promotion parce que je suis trop nulle.
Je ne vaux rien, on ne me regarde pas, tout ce que je fais, ça passe inaperçu.
On m'a embauché, mais on ne savait pas qui j'étais vraiment, le syndrome de l'imposteur plus. Hein.
Ok, alors, on fait une pause, Marie-Pierre, mais on va revenir aux choses personnelles, puis après ça, on essaiera de comprendre comment changer. Parce qu'il doit, est-ce qu'il y a une différence, il doit y avoir une différence entre changer nos croyances au travail et dans notre vie personnelle. On va essayer de débroussailler tout cela. Vous êtes toujours sur Troc Radio, je suis accompagnée de Marie-Pierre Midouga, et nous parlons de croyances limitantes. Est-ce que cela, vivre avec des croyances limitantes, on peut être quand même heureux? On écoute Les Échardes avec Charlotte Cardon et on revient tout de suite après.
Berçons-nous comme des amoureux, comme si ce n'était qu'un jeu et que tout pouvait changer si on jouait. Nos ennuis, on a vu s'enfuir nos vies et on a couru après, évidemment sans succès.
Et si on en parlait? À l'antenne, Francine Broca.
Nous sommes de retour et nous parlons de croyances limitantes. Certaines d'elles nous empêchent de nous épanouir. On a vu dans le système, dans le mode travail. Et maintenant, Marie-Pierre, on va aller dans notre vie personnelle. Quelles sont ces croyances limitantes qui nous empêchent, dans ce domaine, de nous épanouir?
Alors, très souvent, c'est ce que j'appelle donc les croyances limitantes qu'on rencontre à cause du syndrome de la fée Carabosse. Oui. Il y a quelqu'un qui arrive comme ça, et puis comme la fée Carabosse qui dit « Toi là, tu n'arriveras jamais à rien. Tu n'arriveras jamais à rien. De toute manière, dans notre famille… »
On n'arrive à rien.
on n'arrive à rien, où les filles ne se marient pas, les femmes sont malheureuses en amour, on est des mauvaises mères, on souffre en accouchant. Alors, il y a parfois des fonds de vérité. Hein.
Oui, bien sûr.
Il y a des femmes qui avaient de l'endométriose. Maintenant, on sait que les femmes qui souffrent tout le temps, qui ont mal au ventre, qui ont du mal à avoir des enfants, parfois, elles ont de l'endométriose. Et que c'est une maladie de femme en femme. Et la génétique, parfois, ne ment pas. Effectivement, on est malade de femme en femme, etc. On va tous mourir. Parfois, c'est basé sur quelque chose de vrai. En fait, on a ces prédictions transgénérationnelles sont parfois fondées sur quelque chose de vrai parce qu'il y a un inconscient collectif.
Oui, mais ce n'est pas tout, hein, je veux dire.
On en parle souvent. Mais ouais. Ça, c'est à mettre de côté, mais ça dit, il faut toujours questionner ce qu'on nous dit, une grand-mère, une tante, une lignée de femmes qui nous dit « Ah, mais chez nous, les femmes sont comme ça ». C'est intéressant de la questionner parce que parfois, ça repose sur une véritable souffrance. Il y a des générations qui n'a jamais été dénouée et qui se reproduit et qui se répercute de génération en génération parce qu'on ne l'a pas traitée. Parce qu'on n'a pas dit « Stop, je la regarde, j'examine la chose ». Et moi, je dis qu'il y a un bénéfice d'inventaire. Cette malédiction, entre guillemets, c'est une malédiction, hein, elle ne passera pas par moi. Mais pour la refuser, encore faut-il la connaître. Encore faut-il en être consciente.
Voilà.
Très important, parce que vraiment, ces malédictions transgénérationnelles, ce n'est pas que dans les contes de fées qu'elles existent, ni dans les grands mythes comme la maison des Atrides chez les Grecs. Hein. Ce n'est pas que dans les contes de fées. Il y a vraiment ça. Il y a vraiment quelque chose qui se transmet ou dans mon âme. On meurt, par exemple, chez nous, tous les hommes meurent à 50 ans, ce n'est pas la peine que tu fasses d'efforts. D'accord ?
Ah, mais alors pourquoi les hommes meurent à 50 ans ? Il y a peut-être un problème. Alors, on doit faire peut-être surveiller sa santé ou quelque chose. Ouais.
C'est important de le savoir. Aujourd'hui, on sait que parfois, ça repose vraiment sur la génétique. Maintenant qu'on peut étudier les gènes.
Hein, oui, parce qu'on va juste le médecin et si quelqu'un va dire ben, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a eu le cancer dans votre famille ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est diabétique dans votre famille ? Alors, on pose des questions sur les gènes de notre famille.
Tout à fait. Et ça permet de désamorcer la croyance et de pouvoir entrer dans le réel.
Oui, parce que les gens vont dire, ben, en 45 ans, tout le monde meurt dans ma famille. Et quand arrive 43, 44, il y a une peur qui s'installe. La
et
croyance.
Une peur qui s'installe et des conduites. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on rencontre ce type de prédiction, ce type de malédiction, entre parenthèses, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, alors, avec un naturel confondant, il y a une espèce de truc téléguidé, on va se mettre à faire la chose qu'on ne doit pas faire. Vous voyez, je parle bien de la fée Carabosse, parce que quand elle a dit à Aurore, tu vas aller te piquer sur une quenouille, la seule quenouille de tout le royaume, il y en avait qu'une, hein.
Oui.
Et bon, on y est allé. Voilà, c'est exactement ça. Il y a une espèce de... La force de la prédiction négative est tellement forte
qu'on y croit et ça l'arrive, finalement.
On va tenter par toutes nos forces de la réaliser.
Oui.
C'est ça qu'il faut entendre dans le syndrome de la fée Carabosse. C'est-à-dire que la personne, elle a jeté un anathème sur notre tête et du coup, c'est comme si cette croyance-là devenait quelque chose qu'on devait exécuter.
En réalité, a priori, on pourrait aussi la renverser, faire le contraire.
Alors, on peut la... Alors, ça dépend de l'état d'esprit dans lequel nous sommes. Il y a des rebelles. Et les rebelles, quand on leur dit ce genre de choses, généralement, ils vont en faire quelque chose d'autre. Moi, j'ai un souvenir parce qu'on a vu cette publicité pendant très très longtemps, la publicité sur le fondateur de l'entreprise Guy de Graine, qui faisait des fourchettes, des couteaux, enfin, des services de table. Hein. Mm-hmm. Et on lui avait dit qu'il arriverait jamais à rien parce qu'il n'arrêtait pas de dessiner comme ça sur les...
Sur un bout de papier, sur une napkin, oui.
Voilà, il dessinait partout et en fait, il est devenu dessinateur de grands trucs. Et il en a fait une pub en disant « il n'arrivera jamais à rien » et c'est devenu Guy de Graine, le symbole de l'excellence française. Hein. Mm-hmm. Il y en a beaucoup qui ont renversé la vapeur en disant « eh ben justement, je vais te montrer. »
Je vais te montrer, moi, ce que je suis capable de faire. Oui, il y a des gens qui ont le caractère pour faire ça, la personnalité.
Il y a des gens, voilà. Mais il y a des personnes, surtout si la charge familiale, culturelle est forte, qui ne vont pas oser aller contre. Oh ben, puisque c'est comme ça, puisque tout le monde est comme
ça. Ils vont se replier sur eux-mêmes.
Qui vont se replier ou qui vont...
Accepter.
Accepter. Et qui vont dire, effectivement, puisque c'est comme ça, c'est comme...
J'y peux rien.
Qui ne questionnent pas ce qu'on leur a dit, se mettent dans une situation d'acceptation, puis de mise en œuvre de cette prédiction.
Alors, leurs croyances limitantes les empêchent d'avancer et ça va se réaliser tellement la croyance est profonde.
C'est comme s'il y avait une marque invisible qu'on vous a mise sur le front, en disant, voilà, toi là...
Voilà, ça n'a pas pour longtemps, là. Voilà.
Toi, chez nous, les deuxièmes de la famille, hein, les benjamins, ou les cadets, plus précisément, mais ça provient aussi d'un enchaînement familial auquel on est habitué, n'est-ce pas que pendant des années, il y avait les aînés qui avaient tous les droits, les cadets qui n'en avaient moins. Donc en fait, les malédictions familiales ou les assignations familiales, le premier, il est noble, le deuxième, il est curé, le troisième, il est chevalier, il est militaire. C'est des choses qui sont restées très très longtemps dans la tête. Ce sont des choses que l'on transporte avec nous.
Dans une famille, il y avait un médecin, il y avait un notaire, on voulait qu'un des enfants devienne comme ça, tout à fait. Ouais.
Et on ne s'en rend pas compte, mais on reproduit les schémas familiaux très souvent. Donc, lorsqu'on a ce type de croyance limitante en disant « Moi, en fait, j'aimerais bien un médecin. » Bon, voilà, les médecins chez nous, ce n'est pas les premiers de la famille. D'accord.
Donc, là, d'accord, dit-elle, d'accord.
Première chose qu'il faut faire, c'est identifier la croyance et l'interroger. Alors, c'est facile quand on vous dit qu'on meurt tous à 35 ans.
Ah non, mais là, c'est comme vous disiez tantôt, faire l'examen de conscience, écouter la voix et se mettre un peu de côté.
C'est ça. Et puis ensuite, chercher pourquoi dans la famille ou dans ce cercle-là où l'on est, c'est normal, il est normal de croire ceci. Pourquoi on vous dit, mais dans notre famille, on se marie. Les filles ne se marient pas. Ah bon? Et comment? Alors donc, elles font des enfants hors mariage, oui. Et pourquoi?
Vous êtes drôle ce matin.
C'est le pourquoi. Comme quand on est petite, on dit, mais pourquoi? Souvent, on nous dit, mais tais-toi. Non, pourquoi? Ouais. Là, on est grand.
Il est temps de poser les questions comme les enfants. Oui, mais pourquoi? Parce que quand on est jeune, hein, souvent, les enfants, on leur dit, bah, tu vas faire ça. Oui, mais pourquoi? Il y a toujours cette question qu'on dit, le pourquoi. Mais là, il est temps de se questionner quand on a...
De ce qui est exactement. Ensuite, usez de la méthode Coué pour se défaire de cette croyance limitante. Une fois que vous avez compris, alors évidemment, si on vous dit on meurt tous à 50 ans, vous interrogez. On vous apprend qu'effectivement, vous avez un syndrome ou vous avez un gène qui induit une faiblesse cardiaque, c'est clair que vous allez changer de vie.
Ah bah oui, allez voir le médecin. Puis, ouais,
les autres ne le savaient pas, bah voilà. Vous le savez, bah vous allez changer de vie. Dans notre famille, on va tous en prison, on est tous des psychopathes. Vous allez éviter de vous mettre dans des situations qui vont vous stresser, hein, qui vont vous permettre d'avoir un coup de sang ou je ne sais quoi. Souvent, c'est ça. Hein. C'est pas parce que les gènes ont dit que vous avez, mais vous avez quand même plus de chances de développer un cancer quand vous avez une vie complètement déséquilibrée et qu'en fait vous avez déjà une sensibilité. Que quand vous avez une vie, ça ne vous empêchera pas de l'avoir, peut-être. Mais au moins, l'intérêt, c'est que vous pourrez peut-être anticiper, comme certains l'ont fait. On a beaucoup parlé d'Angelina Jolie, hein, qui a anticipé. Et puis, vous pourrez aussi, dans d'autres cas, pouvoir vous dire, ben voilà, on sait que dans notre famille, on a tendance à faire des crises cardiaques un peu tôt. J'ai un souffle-cœur, je peux gérer ma vie autrement.
Alors, prendre conscience et identifier. Ouais. Et ça te posait la question, parce que sincèrement, là, je pense que c'est vraiment ça. Et bon, tout le monde meurt à 50 ans, mais sincèrement, est-ce que moi, je pense que je vais mourir aussi à 50 ans? Qu'est-ce que je peux faire pour passer à côté de ça ou défier cette croyance?
Voilà. Et d'une part, pourquoi cette croyance me fait tellement peur? Pourquoi elle a tant d'importance dans ma vie? Une fois que vous avez interrogé.
Ouais. C'est parce qu'on a vu tout le monde qui mourrait à 5 ans.
Qu'est-ce que je peux faire pour enlever cette croyance? Est-ce que j'ai des exemples autour de moi que cette croyance, en fait, c'est une prédiction qui ne marche pas? Parce qu'en réalité, quand vous cherchez bien, vous vous apercevez, vous avez toujours des exceptions. Il y en a toujours. Ah, oh, mais Tata Marthe, bah non, elle ne s'est pas mariée. Mais Tata Odile, elle s'est mariée, Tata Odile. Et ça marchait très bien. Elle est divorcée, bah non, toujours en couple. Ah, mais telle... Et là, vous apercevez qu'en fait, la personne qui vous a jeté comme ça un anathème, elle n'avait peut-être pas elle-même, comment dire, une très bonne intention.
Ouais.
Souvent, on ne questionne pas l'intention
de la personne qui nous dit ces choses-là.
Vous jette l'anathème.
Ouais.
Et c'est important de le faire. Pourquoi? D'abord parce que vous allez pouvoir comparer entre ce qu'elle vous dit et puis la situation.
Mais n'empêche, Marie-Pierre, lorsque quelqu'un nous dit quelque chose comme ça, même qu'on ne veuille ou pas, on est porté à y penser quand même. Hein. Comme être humain, si quelqu'un vous dit « t'es idiote, t'es sotte », même si on ne pense pas vraiment qu'on l'est, il y a une petite voix qui dit « mais pourquoi elle a dit ça? Qu'est-ce qu'elle a vu chez moi qui me faisait penser que je pouvais être… »
Exactement. Et c'est pour ça que c'est important de se questionner, de se comparer, et puis d'essayer de dire…
D'analyser, ouais, comme il faut.
D'où elle parle, cette personne? À ce moment-là, d'où elle parle? C'est toujours important de questionner la loyauté que l'on a par rapport à la personne. Et vous allez vite vous apercevoir que vous êtes très sensible à cette personne, parce que parfois vous la considérez comme un mentor. Parfois vous la considérez…
Parfois
comme...
à tort, peut-être.
À tort, exactement. Parfois vous avez besoin de l'admiration de cette personne, qui le sait bien d'ailleurs, et qui en profite donc pour vous
défendre. Mais ce n'est pas évident. Aujourd'hui, on s'aperçoit que de faire pleine confiance à quelqu'un, c'est pas... ça peut être aussi dangereux qu'être maléfique que bénéfique, en quelque part.
Ça fait partie de la vie d'avoir face à nous des petits maîtres ou des grands maîtres. Vous avez des grands maîtres
J'aime bien quand vous dites les petits maîtres. Il y en a beaucoup, hein, il y en a beaucoup de ça.
C'est ça. Vous avez des grands maîtres avec beaucoup d'amour et de bienveillance, en général. Puis vous avez des petits maîtres que vous rencontrez qui viennent bien taper là où c'est un peu sensible. Hein.
Ah oui, ça existe, ça beaucoup, on en voit. Il y en a, ça se réplique aussi, ça se copie conforme là, hein. Il faut faire attention, oui.
Et c'est important de vous dire pourquoi cette personne me dit-elle ça.
Donc, est-ce qu'il y en a qui font ça juste par méchanceté, Marie-Pierre?
Ah ben oui, complètement.
C'est le but de vous anéantir.
Ça arrive.
Ouais. Ça
arrive, il y a des personnes qui vous disent ça parce qu'elles-mêmes sont dans une situation très inconfortable.
Elles sont méchantes.
Parce que moi, je n'y suis pas arrivée.
Elle n'y arrivera pas.
Ce qu'il faut entendre, c'est... Les gens, souvent, et c'est ce que je dis quand j'essaie d'accompagner les personnes qui ont son syndrome de la fée Carabosse.
De la fée Carabosse, oui.
Je leur dis souvent, les personnes qui vous parlent ne vous parlent tout le temps que d'elles-mêmes. C'est valable pour moi, d'ailleurs. Généralement, quand l'être humain parle à une autre personne, il ne lui parle pas d'elle, il lui parle de lui. Et une fois que vous le savez, vous pouvez...
juger.
N'entendant pas juger.
Non, mais juger si c'est bien ce qu'elle vous dit, je veux dire, dans le sens de prendre en considération ce qu'elle vous raconte.
Vous pouvez entendre la personne, mais vous pouvez... On dit souvent, une attitude montre plus ce que pense la personne
que sa parole.
Son attitude en dit plus long sur elle-même que sur vous. Cette phrase-là, il faut toujours vous l'avoir en tête. L'attitude d'une personne envers vous en dit effectivement beaucoup plus sur elle que sur vous. Pourquoi vous allez le prendre pour vous? Si une personne vous dit une méchanceté, ça en dit long sur elle, pas sur vous.
C'est elle qui est méchante, voilà, finalement.
Oui. Non, mais c'est une évidence, hein, pourtant. Et pourtant, on a tendance à prendre ce que nous dit une personne pour argent comptant. Mais non, du tout. Et ça, c'est important.
C'est peut-être cet effort-là à faire en premier lieu, que lorsque quelqu'un vous dit une remarque, tout de suite, au départ, ne pas la prendre pour vous, puis dire de se replier sur soi-même, qu'elle soit bonne ou mauvaise, mais pourquoi elle a dit ça? Et c'est peut-être elle qui est dans... Elle fait référence à elle-même au lieu de faire référence à moi.
Voilà. Et souvent, lui faire reformuler. D'abord, c'est quelque chose qu'on emploie souvent, vous savez, avec les pervers narcissiques, quand on a une phrase très mauvaise. Ils ont l'habitude un peu des phrases assassines comme ça.
Et alors, souvent, on dit quoi? Répète.
Faire reformuler la parole ou la phrase de la personne quand c'est une phrase très désagréable. Tu n'arriveras jamais à rien, ma pauvre fille. Est-ce que j'ai bien compris que tu veux dire que je n'arriverai jamais à rien? Maintenant, toujours, je suis... Est-ce que je suis... Non, mais c'est important parce qu'une fois, voilà, quand, quand c'est dit de manière énorme, hein, quand c'est comme ça, là, vous allez entendre, ben non, tu n'arriveras jamais à rien parce que tu es nul. Là, vous pouvez être sûr que la personne, ce qu'elle vous dit, il ne faut pas la croire, vous voyez. Ou là, non, parce que tu t'y prends mal. Parce que là, à cette attitude-là, j'aurais fait autrement.
Ouais, ah. À ce moment-là, elle peut vous dire, ben, regarde tout ce que tu as fait là. Tu vois bien que c'est tout ce que tu as entrepris, tu n'as jamais réussi. Regarde, A, B, C, D. Et là, on doit reformuler avec elle pour dire...
Reformuler en train de lui dire, mais qu'est-ce que tu racontes ?
Reprends-moi ça. Là, ça tu veux dire quoi au point A ? Qu'est-ce que j'ai fait ?
Ouais. Non, pas au point A, mais qu'est-ce que tu racontes ? Pourquoi je n'ai jamais rien réussi ? Mm-hmm. Tu connais toute ma vie ? On se connaît depuis toujours ?
Ouais.
Alors, évidemment, si c'est votre parent, là, faut prendre un pas de côté et dire, mais si, mes amours vont bien, ma vie va bien. Je ne réussis peut-être pas comme tu le souhaites.
Tu le souhaites, voilà, c'est ça. Dans les yeux de la personne qui nous fait cette remarque-là, c'est peut-être pas à sa façon dont elle le voudrait. Mais nous, si ça nous convient parfaitement, on n'a aucun souci, non ?
C'est pour ça que c'est toujours très intéressant de reformuler. Ouais. Parce que ça vous permet justement de faire un pas de côté. Alors, faire un pas de côté, ça permet à la blessure d'être beaucoup moins vive d'un coup. Vous dites, oula, tu dois être bien malheureux pour sortir des propos comme ça. Alors, je n'ai pas bien compris. Attends, est-ce que tu peux me reformuler ? Parce que là ce que tu es en train de me dire, c'est...
C'est gratuit, là, ou quoi, ouais.
C'est vraiment... C'est vraiment gratuit. Alors, qu'est-ce que tu voulais dire ?
Ouais.
Parfois, la personne, c'est une personne qui est sans filtre. Hein. Elle n'est pas méchante, elle est simplement
sans
filtre.
Non, voilà.
Et puis parfois, elle est vraiment méchante. Et généralement, elle va être plus maligne. Mais elle va essayer de... Voilà. Ensuite, une fois que vous avez compris que ce que disait la personne, c'était de la méchanceté, il n'empêche que le venin a quand même pénétré dans votre peau. Hein. Donc, il va falloir...
Un antidote.
Voilà. Mes petites méthodes d'antidote. La première méthode d'antidote que j'ai, c'est d'essayer... C'est de dire, elle me dit ça, mais moi, j'ai bien des preuves dans lesquelles j'ai réussi. Et de vous remémorer tous vos succès. Tout ce que vous avez fait de bien et dont vous êtes fière.
Alors, de refaire cette feuille, de prendre un papier, un crayon et de dire, ben, écoute, là, elle m'a dit ça. De refaire l'inventaire de soi-même.
Mais moi, je suis très heureuse de ça. Je suis très contente de ça. Ça, je l'ai bien réussi. Il n'est pas possible que vous ayez tout raté, absolument tout, de tout, en tout, depuis que vous êtes né. Ça n'existe pas. Mmh. Ça n'existe pas.
Mais il y a des choses que nous pouvons changer quand même.
Tout à fait. Non, mais il y a des choses qu'on peut améliorer. On n'est pas parfait. L'erreur est humaine. Sans erreur, on n'avance pas. Hein, les erreurs sont faites pour nous faire comprendre qu'on est dans la mauvaise voie. Hein. C'est pour ça, les erreurs. On tombe, on remonte. Ah ben, fallait pas que je m'y prenne comme ça. Il faut que je me mette avec un peu plus d'équilibre. Voilà. Ensuite, quand c'est dans le travail, une personne qui vous dit bah non, mais avec les diplômes que tu as, tu réussiras jamais, vous avez plein d'exemples. Alors là, par contre, plein d'exemples dans la vie pour dire bah alors là, il y a des personnes qui ont réussi sans diplôme, il y a des personnes qui ont réussi comme ça, il y a des moi, j'ai l'expérience. J'ai peut-être pas le diplôme, mais j'ai l'expérience qui me permet de.
Ouais. Il y a des critiques négatives et des critiques positives, alors il faut savoir juger. Ouais.
Et ça vous permet un peu de relativiser ce que vous dit la personne. Et puis, une fois que vous avez donc repéré les faits, ensuite...
Les mettre en pratique, là, c'est autre chose.
Avant de les mettre en pratique, faire preuve de bienveillance envers vous-même. Vous venez de vous ramasser une tôle, comme on dit. Vous avez mal, hein, forcément.
Alors, ouais,
et là, tout d'un coup, on dit, bon, ok, elle m'a dit ça. J'accepte l'idée que ça me fasse de la peine.
Bon.
Et vous vous réconfortez.
Prenez un gros morceau de tarte au chocolat avec de la crème fraîche. Voilà.
Morale ou physique.
Oui.
Après, physique, voilà, c'est sur les hanches que ça se le réconforte.
On le verra après. Quelquefois, on a besoin d'un bombe immédiatement pour avaler, comme vous dites la torgnole.
Comme vous étiez petite, parce que vous, voilà, vous, c'est les sucreries. Et puis, c'est vrai que ça fait du bien de se dire, ben non, quand même. Et puis de vous encourager. Vous vous rappelez ce que j'avais dit ? Les cinq, se féliciter, se réconforter, s'encourager. Avant, il faut s'écouter parce qu'il faut être sûr que ça nous a fait de la peine. On peut être très en colère et ne pas comprendre qu'il y a la colère d'abord, la peine derrière.
Donc, on se mouche un bon coup, puis on fait l'analyse.
Il faut d'abord s'écouter.
Ouais.
Je me sens comment la vie me dire une vacherie. Je respire, c'est vraiment... Bon, comment je me réconforte ? Comment je m'encourage ? Et puis, c'est ensuite que vous pouvez dire, dans toute méchanceté, c'est pas qu'il y a quelque chose de vrai, mais la personne, elle a pointé une faiblesse que je pourrais peut-être renforcer.
Oui, au départ, on veut peut-être pas le comprendre et le voir, hein, parce que comme vous dites, recevoir un soufflet comme ça en plein visage, ça fait mal, et puis on se dit ben, qu'elle se mêle dans ses affaires, puis qu'elle se fait avoir, mais ça travaille un peu à l'intérieur, puis comme vous dites, après la colère, si on s'assoit et on analyse bien comme il faut, on respire là. Et peut-être qu'elle a raison, donc qu'est-ce que je peux faire à partir de là?
Voilà, ou peut-être qu'elle n'a pas raison.
Peut-être aussi, ouais.
Mais elle a pointé quelque chose qui est une de mes petites faiblesses. Mmh. Ok, voilà. Comment je peux me débrouiller? Mais il faut se rappeler qu'il y a quand même des gens qui sont méchants, méchants. Voilà, ils se lèvent le matin, ils sont de mauvaise humeur, et leur bonheur, c'est d'écraser des personnes tout autour. Ça existe, hein?
Ah oui. Ah oui, malheureusement, ça existe. Et on y oui, beaucoup. Mmh.
Alors, autre... Moi, je dis toujours que tous les jours, il faut penser à faire un geste, une pensée, poser un acte qui va dans ces 5 preuves de bienveillance envers soi-même.
Une des 5.
Soit se féliciter, soit se réconforter, soit s'encourager, soit s'écouter, soit se rassurer. Il faut le faire.
Ouais.
Avant de l'attendre de quelqu'un d'autre, généralement, la personne qui nous fait le plus de vacheries ou qui nous sort ce petit...
Il y a quelqu'un qui sont très près de nous, quelquefois.
Exactement, et c'est des personnes dont on attend le plus. Et comme on ne sait pas s'encourager soi-même, ouais. On l'attend de quelqu'un d'autre, ça ne vient jamais. Mmh. Et en revanche, la vacherie vient. Donc, pour renverser la vapeur.
Moi, je dis toujours qu'en se levant le matin, ou peu importe, dans la journée, ou pour partir le matin, vous brossez les dents, vous êtes dans la glace, et là, vous vous dites, je suis quand même pas mal, et je suis capable d'y arriver. Juste le fait de se dire ça, t'es bonne ma fille, tu vois que t'es capable, allez vas-y, commence ta journée. Ça donne juste un petit oups pour partir, pour avoir cette confiance en soi.
Il faut l'avoir, c'est important. Mm-hmm. Et donc, se rappeler que voilà, on fait des erreurs, c'est normal, c'est humain.
Mais on n'est pas parfaite, hein. Voilà.
On n'est pas parfaite, on n'est pas des robots. Mm-hmm. Et les robots ont eux-mêmes été programmés par des êtres humains, donc il leur arrive de faire des erreurs aussi. Moins que nous, bien sûr, mais il leur arrive quand même. Et puis en plus, ils n'ont pas les sentiments. Enfin, pas encore, ça va venir sans doute.
Oui, on va y arriver un jour, bien sûr.
Donc ça fait échec au syndrome de la fée Carabosse. Son corollaire, hein, c'est le syndrome de l'imposteur. Hein. Pas systématiquement, mais souvent. Donc, une fois que vous avez, voilà, vous avez analysé et vous vous êtes dit, bon, voilà, j'ai compris. Et vous allez éviter, c'est pas toujours facile,
non.
De vous mettre systématiquement en situation d'être comme ça jugé. Alors, je dis bien que c'est pas toujours facile. Pourquoi? Parce que dans votre travail, par les temps qui courent, on change pas de travail comme on change de chemise. Hein. Donc, surtout par les temps qui courent, donc... Vous n'êtes pas à l'abri d'un empêcheur ou d'une empêcheuse de tourner en rond, d'un pervers narcissique, d'un chef acariâtre.
Non, mais de mettre nos intentions, avoir des intentions positives vis-à-vis de nous.
Exactement, et avoir une pensée positive. Moi, ce que j'ai compris des personnes qui vous lancent des anathèmes de ce type, c'est que ça en dit d'abord plus sur elles que sur nous, d'une part.
Oh oui, mais le mal a été fait quand elle a lancé ces choses-là vis-à-vis de nous.
Mais... ça peut être aussi des personnes qui sont malheureuses. Alors évidemment, je suis coach, donc j'ai tendance à faire un pas de côté et regarder et me dire, bon, quand on peut les éviter, on les évite, ça c'est des ondes négatives, hein, mais quand on ne peut pas les éviter, c'est de dire...
Elle doit être bien malheureuse pour me dire des choses pareilles.
Exactement, et de dire, qu'est-ce que... C'est ça la communication non-violente, ta manière de le dire, est une manière extrêmement violente. Mais qu'est-ce qui se cache derrière cette manière? Tu n'aurais pas un petit peu peur? Tu ne serais pas un peu jalouse? Tu ne serais pas un peu... Alors, une personne ne va jamais vous dire qu'elle est jalouse.
Mais non.
Moi, j'ai tendance à dire, qu'est-ce que j'ai fait pour t'importuner? Qu'est-ce qui t'a fait de la peine?
Qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu agisses comme ça vis-à-vis moi?
Tu agisses comme ça. Et donc, mais pas sur le ton de la
victime. Non, non. Mais je pense que oui, vous avez raison, Marie-Pierre, parce que...
Mais voilà, mais... Qu'est-ce qui t'a importuné dans ce que je viens de dire? Et souvent, vous avez la réponse. Hein. Soit vous avez été trop... Comment dire? Peut-être un petit peu trop sûr de vous. La personne, ça l'a énervé, donc elle a eu envie de vous casser. C'est souvent ça. Hein.
Ouais.
Il y a souvent... Alors, ça arrive avec les garçons, mais les filles aussi.
Ouais.
Les garçons vont dire, J'ai cassé sa confiance un petit peu parce que je la trouvais trop sûre d'elle, puis après, je n'aurais pas pu la draguer. Donc, au lieu de vous dire, ce que tu es jolie, mais tu te prends pour qui? Tu te prends pour une princesse? Voilà. En fait, ce qu'il veut dire, c'est qu'il vous trouve très jolie au départ. Hein. C'est
mais comme il est, peut-être qu'il manque de confiance, alors. De
rue. Ouais. Oui, le harcèlement de rue au départ. Il y a des harcèlements qui ne sont pas « je vais vous écraser hein, », mais il y a le harcèlement qui dit « qu'elle trouve jolie, voilà, elle est jolie ». Bon, il devrait le garder pour lui, ça c'est ça la bonne attitude, mais non, non, mademoiselle, et que la personne le regarde mal, il se sent vexé, d'un coup, bim.
Mais c'est parce qu'on n'en prend pas toujours le temps, c'est-à-dire que si on prenait juste le temps de respirer, de tourner sa langue un petit peu, puis de dire, quand la personne nous dit une vacherie pareille, et de dire ben, « va te faire voir qu'est-ce qui te prend », puis il s'en allait claquer, si on prenait le temps, comme vous dites, ben, « pourquoi tu me dis une chose pareille? Depuis quand tu penses ça ?» Et avec, comme vous dites, tout est dans le ton, de l'approcher doucement, il y aurait peut-être quelque chose de différent qui sortirait de cette conversation-là.
Peut-être. Alors, pas toujours.
Non, mais parfois.
Ils sont enfermés dans leur méchanceté,
ouais.
Ou confis dedans, hein, confis dans le vinaigre, comme je les appelle. Mais il y a aussi des personnes qui, finalement...
Sensées, ouais.
Oui, qui vont dire « oui, pardon, non, j'étais mal lunée, je me suis mal réveillée, ou c'est pas ce que je voulais dire. » Et brusquement, là, vous entamez un dialogue.
Ah oui, parce que ça l'arrive, les gens qui ont
une... J'avais mal compris. Ouais. Voilà, j'avais pas bien compris ce que tu voulais me dire. Et vraiment, de jouer la carte de « j'ai pas bien compris ce que tu as voulu dire, donc reformule-moi quand même. »
Ouais. Redis-moi ça que j'essaie de bien comprendre, je vais bien prendre tes conseils, mais j'arrive pas là. Mais il y a souvent aussi des gens qui se lèvent le matin, peu savoir, hein, ils ont eu une dispute, ils n'ont pas dormi de la nuit, peu importe. Et ils sont frustrés, ils arrivent au travail, puis la moindre personne qui va être devant elle, ils vont la mordre. Ça arrive ça aussi.
C'est ça. Mmh. Oui, c'est ça. C'est que, alors, ensuite, vous allez, comme vous êtes bienveillante envers vous-même régulièrement, vous allez avoir de moins en moins de croyances limitantes. Et vous allez donc repérer les gens qui en ont. Et là, vous allez comprendre pourquoi elles sont de mauvaise humeur. Quand vous avez des croyances limitantes, vous n'êtes pas heureux. C'était notre question de départ. Hein.
Ouais.
Sommes-vous heureux avec les croyances limitantes? Jamais. Comment pouvez-vous être heureux si vous pensez que vous êtes nul toute la journée? Vous ne pouvez pas être heureux. Il n'y a aucune raison pour vous soyez heureux, hein, à part si vous êtes extrêmement masochiste, hein, mais sinon, vous ne pouvez pas être heureux. Et donc, du coup, vous comprenez pourquoi les personnes qui ont fait du mal sont des êtres profondément malheureux.
Mm-hmm. Mais se dire aussi qu'on ne peut pas être à l'image d'une personne qui veut ce qu'on est. On est tous uniques. Hein, il faut aussi comprendre ça, c'est que moi je peux pas être, j'ai bien beau vous dire Marie-Pierre, ben, t'es comme ci, t'es comme ça, mais tu peux pas être à l'image de ce que moi je voudrais que tu sois non plus. Hein, y a des gens qui sont très forts là-dessus, ils voudraient qu'on soit comme ils veulent, qu'ils nous imaginent être de...
Oui,
ouais.
Qui se construisent un fils, une amie, une amoureuse, un amoureux, imaginaire finalement. Hein,
ouais, imaginaire, ouais.
Parce que ce n'est pas nous, en fait, c'est une personne...
Elle a imaginé ça dans sa vie, voilà.
Oui, 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 idéalisée, qui ne répond jamais, qui est toujours d'accord, qui n'est pas vous, en fait.
Non, non, pas du tout. Il faut le dire, oui, il faut savoir dire non. Mais c'est intéressant parce que souvent, comme vous dites, on ne peut pas être heureuse ou être heureux si on se limite à ces croyances-là. Hein, qui nous limite d'avancer, de s'épanouir, c'est surtout ça. Et de faire attention, de ne pas toujours... être à ce que les autres veulent que l'on soit. Dans le regard des autres, quelquefois, ils ont besoin de se laver les yeux, on se voit mal, et puis voilà.
Et puis soi-même, parce que parfois, vous l'avez dit, on peut avoir des croyances limitantes soi-même, ça arrive aussi.
Oui, hein, bien sûr.
On a intériorisé se dire, et si je sortais de ma zone de confort, je ne peux pas écrire, pourquoi? Toujours interroger, même quand ça...
Ouais, mais d'un autre côté aussi, on ne peut pas être bon dans tout, il faut aussi admettre ça. Hein, je ne peux pas être parfaite dans tout ce que j'entreprends. Bon, il y a des choses qui sont peut-être faites pour moi et que d'autres, je dois laisser à d'autres de faire ce métier qui n'est pas pour moi. Comme si j'ai peur du sang, j'ai peur, je ne voudrais pas être chirurgien.
Tout à fait. Hein,
il faut quand même ça. Il faut connaître ses limites aussi, je pense, quelque
part. Peut-être, voilà. Il faut connaître ses limites sans avoir de croyances limitantes.
C'est ça. Voilà. Sans se limiter, mais les connaître. Voilà, les accepter aussi.
Tout à fait.
Enfin, je ne sais pas, on va avancer là-dedans puis, et ne pas se laisser, comme vous dites, prendre le temps de se poser la question et de ne pas se laisser à voir par les gens ce qu'ils pensent de nous, parce que ça ne veut pas dire leur opinion, qu'elle est toujours bonne. Hein. C'est leur opinion selon ce qu'ils sont faits de nous, mais elle n'est pas...
Oui, c'est leur opinion, tout à fait. Ben, vous pouvez retrouver cet article, hein, cette croyance un petit peu... Enfin, cet article sur la fée Carabosse.
La fée Carabosse, oui.
Moi, c'est quelque chose que j'ai commencé à travailler dans les années, il y a 5 ou 6 ans.
Mm-hmm.
Hein, j'avais entendu parler, évidemment, du mythe de la fée Clochette. Hein, ces femmes qui ne sont pas du tout gentilles, en fait. voilà. Et je m'étais dit, mais c'est pas ça. On a le mythe de l'imposteur, ça, je le vois bien, le syndrome
ouais.
de l'imposteur. Mais c'est vrai que souvent, on te dit, tu ne réussiras pas. Et c'est comme si c'était vraiment... Et c'est
ancré.
Pour ça que... Voilà, ancré. Vous pouvez donc le retrouver sur le site, hein, psychoportrait-symbolique.com.
Hein,
et donc là, vous allez pouvoir retrouver tout ce qui est dit, justement. Je vais le réactualiser.
Okay.
Et donc, de savoir aussi comment on peut faire échec aux prophéties de malheur, comme je le dis.
C'est très bien dit, ça. Comment faire échec aux prophéties de malheur? Ils viennent vous apporter de mauvaises nouvelles. Tu dis non, je ne veux pas l'entendre. Et si tu l'entends, ce n'est pas ça. Mettre un mur à ça. Parce que ce n'est pas une prophétie de malheur. Comme vous dites, ça dit exactement ce qui on est. Enfin, on a toujours encore appris quelque chose qu'il faut faire pour apprendre à s'épanouir. Je pense que c'est ça le plus important. Et de retrouver notre bonheur pour soi et non pas pour les autres. Marie-Pierre, dans le fond, c'est ça aussi. Hein.
Toujours, toujours. C'est-à-dire que, alors, on m'a fait le reproche un jour de dire, mais à chaque fois, on pensait, pour le développement personnel, on reste centré sur soi, on ne pense qu'à soi, c'est très individualiste. Et moi, je dis non. Quand on a bien appris à s'aimer, quand on a bien appris à savoir comment on se sent bien, ensuite, il y en a beaucoup plus, on peut beaucoup plus et plus facilement se tourner réellement vers les autres. Et quand je dis se tourner réellement vers les autres, c'est que lorsque vous avez le syndrome du sauveur, vous n'aimez pas l'autre. Vous le sauvez parce que ça correspond à une attitude un peu névrotique où vous avez besoin de le sauver, mais ce n'est pas pour lui.
Vous vous sauvez pour vous.
C'est un meilleur, voilà. Lorsque vous êtes vraiment plus à l'aise avec qui vous êtes, lorsque vous vous êtes accepté, là, vous pouvez vraiment vous tourner vers les autres. Et lorsque vous le faites, c'est vraiment avec beaucoup d'altruisme et d'empathie et de compassion. Parce que vous, vous êtes déjà nourri. Vous n'avez pas besoin d'aller chez les autres et de leur tirer leur
moelle. Comme une sangsue, ouais.
Hein? Donc, c'est ça qui est important. Je réponds à ça parce que c'est vrai que très, très souvent, les personnes nous disent « Ah, mais quand même... on a besoin d'un coach pour faire ça, on fait du développement personnel, on est tout le temps tourné vers soi. Est-ce que ce n'est pas être un petit peu égoïste ?»
Narcissique. Non, pas nécessairement, parce que le travail sur soi, il faut le faire aussi. Et si on veut apporter de l'aide aux autres, il faut bien se connaître et puis pas aller chercher, se nourrir, comme vous dites, là, comme une sangsue, aller prendre tout chez tout le monde. Voilà. À ce moment-là, ça ne devient pas de la bienveillance non plus. Hein.
Non, c'est du... On s'en rend pas compte, mais c'est du calcul. Et puis, on met en place des... on le voit bien dans l'analyse transactionnelle, hein, des syndromes de soit on est le sauveur, soit il y a un bourreau, soit il y a une victime, et ça tourne comme ça sans cesse. On n'arrive pas à sortir de ces relations un peu qui nous grignotent, hein, qui nous rendent malheureux.
Mm-hmm. Hein, c'est d'être la victime.
C'est un cercle vicieux hein, mm-hmm. dans nos relations.
Ouais. Enfin, on va travailler là-dessus et puis de ne pas se laisser embobiner par les prophéties de malheur. Voilà. De rester loin de ça. Et si on en rencontre, ben, comme vous dites, reposer la question et pourquoi tu dis ça? À quelle intention? Et puis si on voit bon, qu'il y a quelque chose dans le fond, peut-être que j'ai des choses à changer. Si enfin je veux les changer, si je veux m'améliorer et pas se limiter dans nos croyances pour pouvoir s'épanouir et avancer. Je pense que là-dessus, ben, on a un peu de travail à faire, mais on peut y arriver.
Oui, tout à fait.
Et se mettre un petit peu, comme vous dites, de côté. J'aime bien ça. C'est-à-dire écouter la voix et se mettre un peu en marge. Comme dans la page. On dit que c'est la marge qui fait une page. Alors voilà, se mettre en marge pour mieux voir la situation et l'apprendre plus facilement, disons. Mais écoutez, Marie-Pierre, c'est toujours un plaisir. Et puis, ben, je vous souhaite une belle fin de soirée. C'est le week-end, hein? Deux jours peut-être pour vous de repos. Je sais que vous n'en prenez pas beaucoup, mais quand même, essayez un peu de penser aussi à vous. Quelquefois, ça existe, ça, Marie-Pierre, de penser à soi.
C'est nécessaire. On a un rythme un petit peu soutenu, là, mais ça va, c'est un petit peu plus calme. Ça va se calmer un petit peu, Noël arrive. Mais là, il y a eu un rythme un petit peu soutenu parce que, avec cette pandémie, forcément, entre eux, voilà, on a des situations un petit peu d'urgence à régler. C'est étonnant. On a l'impression que le temps file extrêmement vite, là, ces dernières semaines.
Mais écoute, ça nous fait quand même s'occuper à quelque part, pas se recroqueviller sur soi-même et penser à tous les problèmes qu'il y a autour, parce que Dieu sait qu'il y en a énormément. Et surtout, comme vous dites, en cette période, nous finissons le mois de novembre, hein, on va arriver en décembre, on sait que c'est la Noël, la fin de l'année, et bon, ben, elle ne sera pas comme elle fut dans les autres années. Il va falloir faire avec ce qu'on nous propose et être respectable. Avoir un peu de, comment dire, avoir de l'égard vis-à-vis des autres personnes. Pas être égoïste, penser aux autres aussi.
C'est ça. Tourner vers les autres, effectivement.
Ouais. Enfin, on se laisse là-dessus, essayons de se reposer, de prendre des marches. Maintenant, vous pouvez aller plus loin. Je pense que votre président vous a donné la chance d'aller vous promener un petit peu plus loin que le kilomètre. Alors, profitez-en. Il fait encore du beau temps chez vous. Hein. Je sais que c'est un peu plus frisqué, mais quand même. Ici, on a eu pas mal de neige cette semaine, assez pour un beau tapis blanc. Là, aujourd'hui, il pleut un peu, mais espérons que... Quelquefois, on ne veut pas voir cette neige, mais je vous dirais que c'est plus gai. En ce temps de novembre et décembre, on était content de voir ces flocons qui tombaient un peu partout, comme des petites étoiles brillantes. Ça nous a amené un petit peu.
Oui, c'est très joli.
Ouais. Alors, merci Marie-Pierre. Merci à vous là-bas en France. Merci ici à vous au Québec. Et puis, je vous répète qu'aussitôt que le podcast est en ligne, vous pouvez l'écouter à votre guise, à l'heure qui vous convient. Et Marie-Pierre m'en mettra le lien pour que les gens puissent aller lire cet article de la fée Carabosse que vous avez écrit.
Oui, que je vais réactualiser pour l'occasion.
D'accord. Merci beaucoup et je vous dis, ben, on se dit, nous, à vendredi prochain. À très vite, alors.
À vendredi prochain. Et vraiment, je souhaite un très joyeux week-end, même si vous êtes encore confinés et moitié en quarantaine.
Ah, écoutez, je pense qu'il faut vivre avec. Et puis, comme vous dites, arrêter de... Il faut prendre ce qui vient et puis on ne peut rien y changer. Alors, allons de l'avant, puis soyons positifs. Voilà.
Merci beaucoup.
Merci Marie-Pierre, merci. Au revoir et puis à tous les auditeurs, ben, merci de nous suivre et puis je vous dis ben, à très vite. Au revoir.
On le veut, on le veut. Tout le monde veut l'atteindre. Mais il fait pas de bruit le bonheur, non. Il fait pas de bruit, non, il n'en fait pas. C'est con le bonheur, ouais. Car c'est souvent après qu'on sait qu'il était là.